C'est le 7e épisode de Comedy News Podcast et on va refaire un tour d'horizon un peu de tout ce qu'il y a eu comme pilote pour la rentrée télé. Maintenant qu'il y a quelques semaines qui se sont passées, qui sont terminées, pas ça comme tu voudras, on va pouvoir faire un petit feedback et peut-être vous pointer sur la ou les 2-3 séries à regarder et lesquelles regarder si vous êtes amateur de mauvais trucs. Donc toujours avec Anthony Mirelli. Salut Anthony.
Salut Dan.
Tout se passe bien?
Nickel.
Tu t'es tapé donc l'ensemble des pilotes?
Ouais.
Ou quasi?
Ouais. Plus ou moins, ouais, je les ai tous faits, je pense.
Ok, bon,
moi, le premier.
Je vais te laisser un peu défricher tout ça pour nous autres. Je sais qu'il t'avait à peu près une dizaine de trucs que t'avais pointé en début d'année. J'ai hâte de voir lesquels ont cartonné, lesquels sont aussi décevants que ce qu'on pouvait croire.
Avec un niveau qualitatif, tu parles?
Ouais.
Ceux que j'avais pointés n'étaient pas vraiment exceptionnels.
Non.
Les Dads, Mom, le ouais, We Are Men qui est annulé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends, hein, que je réfléchisse. Donc globalement, en fait, les niveaux audience, ça cartonne parce que c'est la première fois qu'il y a un grand nombre de nouvelles séries sitcom. Donc c'est la première fois depuis 10 ans, je crois, qu'il y en a autant qui arrivent sur le marché.
C'est vrai que t'en as nommé énormément,
ouais,
pas sur des petits réseaux, sur les gros réseaux, les médias.
Et dans l'ensemble, tout cartonne niveau audience.
Sérieux?
Ouais, t'as des séries comme Brooklyn Nine-Nine qui ont reçu des nouvelles commandes d'épisodes.
Ouais, ça c'est le truc de Andy Samberg.
Andy Samberg, ça c'est pour
mais
moi
tu
le.
Tu disais qu'il était drôle.
Ouais, c'est le plus drôle. Et il y a quasiment que ça qui ressort pour l'instant du tas. J'avais parlé de la série que Michael J. Fox.
Ouais, et.
Ça cartonne pas des masses. En fait, comme d'habitude, toutes les séries d'NBC ne cartonnent pas. Donc, Sean Save the World, j'en avais pas parlé parce que c'est encore pire que tout. Sean, c'est Sean Hayes, je crois qu'il s'appelle.
Ouais.
C'est le gay de Will & Grace.
Okay.
Je pense. Michael J. Fox Show, ça marche pas des masses.
Et tu l'as regardé ou pas?
Ouais.
Et moi, ce que
c'est
j'ai,
un peu mou.
Ce que j'ai vu, c'est que au-delà du fait. Donc, on utilise le fait que Michael J. Fox a le Parkinson pour faire une série autour du fait que c'est un gars qui a le Parkinson.
Ouais.
Donc, en soi, l'idée était assez bonne. Mais moi, ce que j'avais lu, c'est que ça mettait quand même un tout petit peu mal à l'aise parce que au-delà de la série, tu le voyais lui quand même avoir du mal. Et il y en a qui m'ont dit que ça lui mettait un tout petit peu.
Ouais, mais ça fait longtemps qu'il. Une fois qu'il a décidé, ça fait plus ou moins une dizaine d'années qu'il a décidé de se remontrer à l'écran. Donc, enfin, moi, personnellement, je m'y suis habitué, même si tu as toujours un peu mal au cœur. Enfin, tu vois, parce que tout le monde l'aime bien, ce mec.
C'est ça, je précise, ça fait pas mal à l'aise parce qu'on déteste les handicapés.
Non, c'est juste que
c'est juste
tu
que
dis
que
merde,
dis,
quoi.
C'est un cool dude et t'as envie de le voir encore mettre sa veste rouge et de faire un quatrième retour à le futur plutôt que de le voir trembloter comme ça.
Ouais, mais moi, je suis passé au-dessus de ça parce qu'il il a apparu dans plein de séries, de Good Wife, dans Rescue Me, il joue un handicapé, tu vois, face à Denise Leary. Il est souvent dans le Colbert Report en train de faire des blagues, donc ça va, je m'y suis habitué, mais la série n'est pas exceptionnelle. Ça a du mal à décoller. Et la merde pour NBC, c'est qu'ils ont commandé 22 épisodes d'un coup, rien que sur son nom, donc.
Ah oui.
Donc, de toute façon, il est là jusqu'en mai, quoi.
Quoi qu'il arrive, ouais.
Et il y a, je ne sais plus, il y a quoi d'autre sur NBC, parce que je n'avais pas noté comme ça, mais en tout cas, c'est la chaîne qui, comme d'habitude, fonctionne moins bien.
Le pire, c'est qu'eux ont eu pendant des années de la domination. Ils ont eu 20 ans de domination avec les jeudis soirs, avec Seinfeld et puis avec Friends. Et je me demande s'il n'y avait pas un combo Seinfeld-Friends pendant.
Je pense que ça s'est chevauché quelques années. Ça s'est terminé en quelle année, Seinfeld?
Ils ont commencé de mémoire en 88 et ils ont fait 9 saisons. Donc je dirais que ça s'est terminé en 98, un truc comme ça. Et...
Bah ouais, Friends c'est 94. Donc ouais.
Ah oui, donc il y a eu quand même.
Ouais.
Et je ne sais pas s'il était. Je me souviens plus, mais il me semble qu'il était le jeudi soir, les deux.
Ah oui,
deux
oui, c'était le comédie. Thursday, c'était un truc de dingue. Et ici, les comédies sont encore le jeudi. C'est leur gros bloc. Ça allait encore un peu il y a quelques années, parce qu'ils avaient 30 Rock, qui n'a jamais vraiment cartonné, mais bon, niveau...
T'sais, j'ai regardé les épisodes de 30 Rock dernièrement, et je me dis... Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression... Et tu sais, quand t'as l'impression de comprendre l'humour, c'est que t'as trop fumé ou t'as trop bu, il faut que t'arrêtes, là. Mais je pense que je comprends pourquoi 30 Rock a autant un succès d'estime et marche pas du tout. En fait, c'est pas une série... C'est pas une histoire. Une succession de punchlines.
Ah ouais, mais en même temps, ils viennent tous du SNL. Enfin,
ouais, mais je veux dire, la série, les scripts, quand tu reçois un scénario, il doit sentir le sperme des writers. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, moi, je trouve que c'est une version live des Simpsons dans la construction. Ils partent d'une idée. Et puis, en fait, ça n'a rien à voir. Ils ont chacun leur storyline qui s'entremêle à un moment donné, mais c'est souvent des trucs rien à voir qui ont très peu de répercussions sur l'épisode d'après. Tu vois, c'est juste des situations qui les font rire et voilà quoi.
Mais même c'est la construction des dialogues. C'est rare que tu as 4 phrases de suite qui racontent une histoire. C'est vraiment juste punchline. Et je dis pas que c'est négatif parce que c'est dur. Hein. sale d'écrire une histoire en succession de punchlines qui fait quand même avancer le truc. Mais c'est pas, je comprends pourquoi, honnêtement, ça a pas tant marché que ça.
Non, mais
c'est pas une histoire. Tu peux, t'as aucun des personnages vraiment avec lequel tu peux dire que tu connais son histoire profonde. Tu veux dire, Liz, un peu féministe, garçonne, la vie personnelle, chie.
Mais ils ont quasiment pas évolué, hein.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et juste elle à la fin, comme je crois, elle adopte et elle avec un mec, mais voilà, c'est tout, quoi.
Ouais, y avait la fois où elle s'était fait opérer pour devenir un mec aussi, qui était un peu bizarre.
Ah, oh, je sais pas, je me souviens plus.
Non, c'est pas arrivé. Oh!
Mais non, mais
on fait des pièges comiques.
C'est tellement possible qu'il y a tellement de flashbacks. Mais bon, tout ça pour dire que ça allait encore, même si l'audience n'était pas au top. Ça allait, ils avaient, la presse était plus ou moins satisfaite.
Oh, ouais.
Ici, même Parks and Rec, c'est en train de baisser. C'est dans ce bloc de comédie qui marche absolument pas. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un peu la merde de leur côté. Et voilà, je sais plus ce que je disais.
Tu es en train de tu disais qu'il essaie de mais, tout ce qui se passe comme le show de Michael J. Fox, mais, comme le reste sur NBC,
mais fonctionne. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand chose qui ressort pour l'instant. Je vais encore voir une série qu'on m'a dit que c'était pas mal, c'est Back in the Game sur ABC, sur le baseball. Enfin, ça m'a pas l'air top, mais je vais quand même regarder. Le truc avec Rebel Wilson produit par Conan, c'est un peu des blagues de gros. C'est un peu le Mike et Molly.
Ouais.
C'est un peu dommage. Et voilà, non, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort.
C'est normalement à chaque année ou à chaque... Pas vrai, à chaque 2 ans, t'en as une ou deux qui ressort. Moi, la dernière vraiment qui avait fait beaucoup de bruit, j'avais détesté, c'était The New Girl avec Zoé Deschanel.
T'en as parlé, ouais.
Ouais. Le dernier que j'ai aimé, moi, vraiment, c'est pas si récent que ça, c'est Girls. Le truc
c'est avec... pas vraiment une comédie.
Ben, c'est autant une comédie que Louis est une comédie sur FX. Je trouve que Lena Dunham, est, genre son show et le show de Louis C.K., il y a énormément de parallèles entre les deux. C'est des comédies qui essaient pas... C'est exactement l'inverse de 30 Rock, en fait. Exactement l'inverse. Où t'as l'impression que chez 30 Rock, les histoires sont accidentelles, et chez Louis et chez Girls, la comédie est accidentelle. Ouais.
Mais ouais, moi je suis mal... Enfin, en tout cas, vers la fin de la saison 2, je sais pas si tu l'as vu, mais c'était plutôt assez malsain.
Assez dark.
Ouais, ouais. Là, elle retrouve des tocs, elle s'enfonce des contre-tiges dans l'oreille, des trucs comme ça. Et c'est un peu malsain à voir. Et puis, ça se voit un peu cracra. Enfin, moi, je suis méga fan, hein, mais je m'éclate pas vraiment devant la série, quoi.
Elle est toujours à poil, d'ailleurs, dans cette série-là. Et c'est pas parce qu'elle a envie de montrer un physique avantageux.
Non, je pense
qu'on
s'en fout.
Peut... Et dans... c'était avant, je me souviens plus quelle série. Je sais pas si c'est les Golden Globes ou les Emmy. Mais t'avais justement...
Elle était à poil dans les toilettes en train de manger un gâteau.
Ah, j'ai pas vu ce truc-là.
T'as pas vu?
Non. Je suis pas sûr que j'ai envie de voir. Je pense que c'est nécessaire à mon bon fonctionnement. Mais c'était justement celle qui joue Liz Lemon, Tina Fey, qui présentait et qui avait dit à Lena Dunham, qui était dans la foule, dit « Hey, Lena, je sais pas si vous force à être à poil pendant la série, mais... t'es pas obligé de le faire. Fais-nous un signe discret.
Mais je suis en train de sauver. Je suis en train de réfléchir parce que il y avait une intro, mais va savoir si c'est les Golden Globes ou les Emmy, où il y avait plein de femmes qui se battaient comme ça dans les toilettes, et je me demande si c'est pas les Emmy l'année dernière. Et bon, à un moment donné, ils ouvrent une des toilettes et t'as Lena Dunham qui est assise en train de bouffer un gâteau à poil. Voilà.
J'ai vu. En fait, le moment où dans Girls, vous voyez pas ce que c'est. Imaginez, mettons Sex and the City. Où les filles, au lieu d'avoir pris de l'exta, auraient pris, seraient en descente de cocaïne. Voilà, c'est beaucoup plus, c'est comme Girls, c'est comme plutôt Sex and the City, plus jeune, dépressif. Si on résume.
Ouais, vraiment, ben ils sont du mal dans une ville qui est, à mon avis, encore moins facile qu'ici, quoi. Pas de boulot, pas de job, pas d'amis, pas de.
Et elle joue au ping-pong. C'est vraiment le moment où je me suis dit, ouais, c'est vraiment qu'elle a envie. Et moi, c'est sûr qu'elle est exhibitionniste, là, non. C'est sûr, à
100%. C'est vrai?
Elle joue au ping-pong topless. Man, c'est pas nécessaire.
Ça, c'est sûr.
Elle, un jour, quelqu'un lui a posé la question, elle dit, pourquoi t'es toujours à poil? Et elle dit, c'est juste que quand tu regardes les scénarios, puis essaie de rendre ça comique, parce qu'au total, c'est supposé être un truc comique, fait. Would it be funnier if I was pantless in that moment? Donc à chaque fois, ça demande, ce serait plus drôle si t'étais à poil.
Mais moi, ce que je trouve, c'est que t'arrives à t'identifier parce qu'au final, quand t'es chez toi, t'es quand même 3/4 du temps soit en caleçon, soit. Enfin, t'es rarement habillé. En tout cas, moi.
T'es en train de faire une belle révélation.
Si je peux me. Mais non, mais c'est vrai, je viens de dire. À un moment donné, il y a plein de scènes où elle est avec son mec, ils sont à poil sur le fauteuil, ils viennent de baiser. Enfin. C'est pas, il y a rien de glamour, ça c'est sûr et certain, ils sont tous les deux plus ou moins dégueulasses, mais c'est ce dans ce qu'elle essaye de faire, c'est logique qu'elle se foute à poil dans sa démarche.
Ouais, d'être le truc, en fait, que l'ambiance, l'atmosphère qui se dégage soit le truc le plus naturel possible.
Ouais, voilà.
Et c'est un truc qui est souvent oublié dans les... je parle dans les séries ou les émissions de télé, on parle de contenu, on parle d'acteurs, on parle de décors, mais je trouve que souvent le mood, l'atmosphère est souvent oubliée. Et autant, pour moi, c'est pas nécessaire de voir Lena Dunham jouer au ping-pong topless. Pour moi, avant, je vivais, j'aurais vécu sans aucun problème. Autant, je pense que t'as raison sur ce que tu dis. Quel est le mood qu'on essaie de faire dégager? Et quand tu prends des séries, moi je trouve, pour revenir à des trucs français comme dont on a déjà parlé, ok, dans un programme court, c'est rare que t'as le temps d'établir un mood, quoi. Pas nécessairement vrai. Comment ça s'appelait déjà le truc? Y a pas d'âge?
Oui.
Y a zéro ambiance, atmosphère, profondeur.
C'est des vannes, quoi.
Mood,
enfin,
vannes. Alors que dans... ne t'emballe pas non plus. Et... Alors que quand tu regardes dans Bref, pour revenir encore avec le même exemple de programme court, il y avait un gars et une fille, il y avait un vrai mood qui se dégageait aussi pour prendre des trucs qui sont un peu clichés, des trucs évidents. Mais je crois que j'ai dû raconter l'anecdote ici, mais on m'avait déjà commandé, moi, une série, un programme court, à un moment donné, de faire des tests d'écriture. Et c'était l'obsession, parce qu'on pense que chez les Américains, c'est de la vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne. Donc on dit, mais à toutes les 6 secondes, il te faut une vanne. Tu fais, ouais, je veux bien.
Ils sont quand même plus proches des personnages que de la vanne.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je vais regarder cette vanne-là au lieu d'aller sur Internet voir des trucs? Parce que des trucs marrants sur Internet, il y en a un milliard. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je vais m'identifier au truc si tu me dis de faire une vanne à toutes les 6 secondes et que t'en as rien à foutre de ton ambiance? Ouais. Anyways, Michael J. Fox, donc ça décolle pas pour lui.
Non, ben voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire parce qu'il n'y a vraiment rien qui ressort. En fait, pour l'instant, je regarde, à part quelques dramas, je regarde Brooklyn Nine-Nine et SNL, quoi, au niveau comédie. Il est toujours au bord des larmes quand je dis SNL.
Mais c'est juste que tu dis SNL et comédie ensemble. Qui
Ah, ça va, c'est bon. Dernier numéro était pas drôle avec Bruce Willis, mais sinon.
Et celui avec Miley Cyrus.
Moi, je l'aime bien. En fait, j'ai absolument rien contre cette gonzesse. Donc, et je trouve qu'elle joue super bien.
En fait, moi, j'ai rien. J'ai juste quelque chose contre elle en interview. Ah, it's pretty cool.
Mais elle a 20 ans en même temps, enfin.
Ouais, mais être jeune, c'est pas une excuse pour être con. Ça n'a jamais été un alibi
à la stupidité. Les trois quarts des jeunes sont cons.
Est-ce que tu trouves que tu étais plus con quand tu avais 20 ans qu'aujourd'hui?
Ouais.
Tu trouvais que tu étais con à 20 ans? Ouais, mais en même temps, je te regarde aujourd'hui. Je peux pas vraiment t'engueuler là-dessus. Quoi.
Commence bien ce podcast.
Ah ouais, non, c'est bien.
L'ambiance, c'est...
Ah oui, le mood, justement. Le voilà. Mood est bon. Non, mais allez, dis-moi un sketch drôle que Miley Cyrus a fait dans SNL.
Ils ont fait We Did Stop, une parodie de son clip We Can Stop sur Government Shutdown. Et alors, je l'ai posté, c'est pas, tu rigoles pas, c'est juste que tu te dis, le SNL ça fonctionne, ils arrivent au boulot le lundi, pour le vendredi tout doit être terminé parce qu'ils jouent le samedi répète, puis émission en live. Ils viennent le lundi, ils discutent d'idées, imaginons qu'ils ont lancé la production de ce machin-là le mardi. Ils ont à peine 4 jours pour tourner un clip qui est nickel visuellement. C'est incroyable, c'est impressionnant, c'est exactement le même que son clip. Il y a les paroles, les figurants, des danseurs, les costumes. Attends.
Mais j'ai vu un truc...
Tu fais de la télé, toi aussi. On discutait juste avant que c'est compliqué en Belgique. Attends, en une semaine, ils te font un truc absolument incroyable qu'il faudrait un an et demi pour faire ici, quoi.
Mais tu sais que j'ai vu quand j'allais visiter les studios d'NBC, ils expliquaient comment ils arrivent à sauver du temps pour arriver à faire des trucs en 5 jours. C'est en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils perdent pas de temps à essayer de rendre des choses drôles. Et là, tout le temps qu'ils sauvent là à ce moment-là, c'est tu sais quand tu cherches pas la vanne.
Ça dégouline de mauvaise foi dans cette pièce.
Non mais blague à part. Donc juste pour reprendre, son clip s'appelle We Can't Stop.
Ouais.
Et puis ils ont fait « We did stop ». Et puis ils l'ont lié avec un truc d'actualité. Putain, ils sont forts.
Oh putain, putain vraiment. La mauvaise foi. Mais non, c'est incroyable.
C'est comme dire « formidable » pour parler de Stromae et des Diables Rouges, quoi.
Mais là, voilà la police des jeux de mots.
La police du jeu de mots.
Tu l'as vu, ce machin-là, de Pirette?
François Pirette, ceux qui écoutent en France voient peut-être pas qui c'est en gros l'humoriste francophone, celui qui a le plus de succès. Quand tu fais le top 10 des audiences de l'année en télé, lui, il fait 4 shows, il écrit à une vitesse de dingue, il fait 4 shows par année, et les 4 shows se classent dans le top 10 des meilleures audiences de l'année. Donc c'est, et ça fait de ça, ça doit bien faire une décennie, honnêtement, c'est une machine de guerre à audience.
Mm-hmm.
Voilà. Les Diables Rouges, donc l'équipe de foot... gang, il s'appelle les Diables Rouges, et puis Stromae est en belge, et il y a une chanson qui s'appelle Formidable. Et là, les génies du jeu de mots se sont dit « Ok les boys, on a deux choses là. On a d'un côté formidable, on a d'un côté les diables rouges. Comment est-ce qu'on va réussir à rendre ça comique? » Et les gars, ils ont fouillé pendant des jours et des jours, sont allés un peu partout, là, débusquer les meilleurs. Et puis un gars qui a fait 6 jours et 6 nuits sans manger, un petit Pakistanais décharné comme ça qui dit « Ah, moi je sais! Formidable! »
Le plus triste, tu sais c'est quoi? Ouais. C'est pas qu'il l'ait fait parce que
y a plus... au JT, il y en a eu aussi. C'était titré Formidable au JT. Hein.
Ouais, mais bon.
Ouais.
Voilà.
De toute façon, les journalistes, c'est le jeu de mots. C'est le, c'est... En fait, la journée, même si t'es contre le fait de tuer les gens, ton avis change le 1er avril en regardant les JT en général. Tu vois, où est-ce qu'est mon AK-47 puis mon permis de chasser?
Mais non, le pire, c'est que ça a été partagé à mort, sur, en tout cas sur Facebook. Et c'était triste. Du coup, obligé de le voir à un moment donné. Mais c'était assez misérable, quoi. Non? Pourquoi tu rigoles?
Parce qu'on a légèrement entendu le buzz de ton...
Il y a mon téléphone qui sonne et c'est... Ouais.
Mais c'est juste que t'as continué de faire semblant là, qu'on entendait genre...
Mais j'attendais que tu masques avec de la mauvaise foi. Vu que c'est un peu ton truc.
Ah ouais, non, mais t'as raison. SNS, c'est hilarant. Allez, honnêtement, je peux comprendre que tu sois fan. Moi, je suis fan de choses qui, je sais, sont objectives. J'aime encore Letterman, alors que Letterman, j'ai pas ri de...
T'es fan de Big Bang... comment ça s'appelle? Big Bang Theory?
Excuse-moi, tu viens de parler de mauvaise foi, t'as fait semblant de pas te souvenir du titre de Big Bang Theory.
Non, parce que la fois passée, je me suis trompé de titre et je sais plus c'était quoi.
Et donc, il y a des trucs, je sais qu'ils sont objectifs.
Attends, j'ai une vanne. Bazinga. Ah, putain, attends que je me roule par terre.
C'est pas une vanne, c'est un callback, c'est un recurring truc. Ouais,
callback, blablabla.
N'empêche, on dira ce que tu voudras, mais tu peux pas à la fois être fan des SNL Shorts de Andy Samberg et pas aimer Big Bang Theory, c'est la même chose. Ouais.
Oh, dis non, s'il te plaît. Tu vas pas commencer à critiquer ce type-là, il a réussi sa carrière, il a un show maintenant, enfin. Il t'a rien fait.
ils ont pas réussi, les gars, de...
De Big Bang Theory? Ah, ils ont réussi la meilleure arnaque de ces 10 dernières années. On n'a pas parlé du coup entre les deux émissions où t'étais parti au Québec, il y avait les Emmy Awards. Ils ont encore raflé des prix et t'as des mecs des Modern Family qui arrivent, mais enfin c'est du vol, pourquoi la police ne fait rien, enfin tu vois. Ces mecs montent sur scène et tu te dis quoi, mais il y avait Louis et Louis était là juste assis là, qu'est-ce que vous attendez?
Oh, mais Louis en même temps, est-ce qu'il était assis en dessous de tous les Emmy qu'il a gagné, quoi?
Ouais, mais bon, merde, à un moment donné, tu vois.
Mais mini parenthèse sur les Emmy Awards, le truc que je trouve qui est assez marrant, c'est le Mad Men. Donc, Mad Men qui est un des trucs culturellement les plus importants pour les séries, on s'entend. C'est pas Martin Luther King non plus, on va rester calme, mais des 10 dernières années peut-être. Et le personnage de Jon Hamm est un personnage classique. Tu sais que dans 20 ans, voilà, il va encore exister. Et ça fait combien d'années de suite qu'il perd? 5-6 années de suite? 5?
Je pense, ouais.
5 ans qu'il est nommé et c'est comme House qui a jamais eu.
Ils ont jamais eu de prix non plus.
Je crois que donc le Hugh Laurie. Peut-être que j'ai des couilles parce que je suis pas certain. C'est Hugh Laurie ou Michael C. Hall, donc de Dexter, et Jon Hamm qui ont jamais gagné. Et tu te dis.
S'il en a pas gagné un quand il a eu son cancer, Michael C. Hall.
Oui, t'as raison. Donc c'est Hugh Laurie et Jon Hamm qui ont jamais gagné. Et t'as l'impression que c'est comme si c'est un peu un given, comme ça, en disant, car tout le monde le sait qu'ils sont bons. Ou, cette année, lui nous a marqué, tu vois. Mais c'est quand même fou de dire, ça s'est terminé, non?
Ouais.
Et c'est un personnage vraiment qui a été hyper... je veux dire, qu'on aime, qu'on aime pas la série, on s'en fout, c'est pas ça le point. Le point, c'est que ça a été hyper important dans l'histoire de la télé. Et le gars...
Non, mais ils passent tout le temps à côté. Ils sont connus pour ça, hein, de passer à côté de ce que les gens attendent. Enfin, tu vois, au moins, tu peux reprocher aux Oscars que c'est prévisible, mais... Enfin, tu sais que le film qui mérite ses Oscars va les avoir, quoi, tu vois.
Ouais.
Les Emmy Awards, ils sont tout le temps avec les mêmes séries, tout le temps les mauvaises séries, pour moi. Surtout en comédie, c'est une catastrophe. Le seul bon prix qu'ils ont remis, c'est Colbert... Ouais. Encore, il était bien entouré. Enfin, de toute façon, que ça aille à lui, à Fallon ou à Stewart ou à... Enfin, peu importe.
D'ailleurs, Fallon, dans son monologue, avait dit « J'avais hâte de voir contre qui j'allais perdre. »
Ouais, bon, mais ça, c'est sûr. C'était censé être le Daily Show. Ils ont gagné 10 ans d'affilée. Et là, c'est Colbert qui a gagné.
C'est mérité, en plus. Il y a eu une bonne
année. Ils ont fait un chouette truc. Quand il a reçu son prix, il a dit il allait sonner à Stewart pour se foutre un peu de sa gueule. Et Stewart vient et lui dit non, moi je suis content pour toi. Et puis en fait, il lui dit, de toute façon, je suis quand même producteur de ton show, donc ça fait genre 11 ans que je gagne, tu vois.
Ouais, c'est pas mal.
Et sur les Emmy, d'ailleurs, il y a Tina Fey et Amy Poehler qui reprennent pour 2 ans. Donc elles seront là en 2014 et 2015, après avoir fait l'année passée, donc cette année-ci, en janvier.
C'est un super duo.
Ouais, c'est, mais elles sont cool en fait. Et c'était quoi qu'il y avait là? Bah ouais, elles étaient là. Attends. C'est les Golden Globes qu'ils ont fait l'année passée.
Je me souviens plus, on en parlait il y a quelques minutes et je me souviens plus c'est quel deux.
Enfin bon, soit. Mais c'est vrai que ça marche vraiment bien et ça change un peu des Ricky Gervais qui vient...
Qui a vite fait le tour de ce qu'il était capable de faire.
Ouais, il s'est tué tout seul en fait.
Et ce qui est intéressant, je trouve, avec le duo, c'est que c'est rare les duos qui sont vraiment drôles en présentation. Normalement, c'est « Ah, tu es très en beauté ce soir. Ah, arrête, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour présenter la meilleure série de l'année. Et les nommés sont... »
C'est vrai que c'est souvent ça. Mais bon, elles ont été à une bonne école, quoi.
C'est pas Seth Rogen qui avait dit quelque chose à un moment donné, un truc hyper vulgueux, ça l'a... Tu es très belle, ouais. I would fuck your mouth. Je sais pas, il dit tant qu'il... Ça m'avait fait rire à mort, parce que c'est toujours le clin d'œil sous-entendu. Lui, il avait été comme un bouge. I would come on your tits. The nominees are...
Mais tout passe avec lui, parce qu'il a tellement un rire un peu gras après qu'il suit que...
À fond.
On peut... Enfin, tu veux que je parle de quoi, Téloche?
On continue avec la télé, ouais, voir ce que t'as encore là-dedans.
Simpson?
Ouais, vas-y.
De toute façon, on a un truc chaque semaine. Il y a Judd Apatow, Seth Rogen, justement, Paul Rudd, Leslie Mann, Channing Tatum et Will Arnett qui vont jouer dans le même épisode.
OK.
En janvier.
Ils vont se croire dans un film de Judd Apatow, justement.
Ben, en fait, c'est Homer qui commence à se lancer dans le piratage de films. Et il pirate un film qui s'appelle This is Funny, un truc dans le genre, une parodie de Judd Apatow où tous les acteurs jouent dedans. Et voilà. Et en parlant de Judd Apatow, ils vont diffuser cette année un épisode que Judd Apatow a écrit il y a 20 ans. Quand il était jeune, il débutait. Il avait envoyé un épisode des Simpsons.
Ah oui, spec script, ouais.
Ouais. Et du coup, bah, comme il est un peu connu et que voilà, ils vont produire son script. Et il l'a raconté en fait chez, c'est pas une blague, chez Conan, qui a un truc qui s'appelle Serious Jibber Jabber, je crois que ça s'appelle.
Okay.
C'est des interviews d'une heure super intéressantes. Avec des philosophes, avec peu importe. Et une fois, il a eu Judd Apatow. Et ils ont parlé de cette histoire-là. Donc, ils vont faire le script cette année.
Ah, intéressant. Et parlant de Conan et des Simpsons, ça n'a pas grand-chose à voir avec Conan, mais la nouvelle... j'ai toujours sur la nouvelle mise à jour du jeu Simpsons Tap Out de Halloween.
Ouais.
Et honnêtement, je suis assez fan. Donc voilà, on pourra peut-être parler des Simpsons plus tard, mais c'est ce que je voulais dire pour le moment. Si vous avez encore jamais joué à Simpsons Tap Out, c'est les Simpsons en français, je vous conseille de le télécharger.
Ok, bon, et tu connais la chaîne Epix?
Non, je ne connais pas.
C'est un peu comme IFC, ils sont un peu spécialisés dans l'humour. Et ils ont filmé un machin au festival du film de Massachusetts. Je sais pas pourquoi ils ont été là-bas, mais c'est un espèce de... Ça s'appelle All-Star Comedy Roundtable. Il y a Michael Ian Black, Ben Stiller, Seth Meyers et Mike Myers,
okay,
qui ont parlé de comédie et d'humour pendant une heure, et c'est diffusé le 25 octobre.
Okay.
C'est un peu comme le truc qu'ils ont fait avec Louis C.K. et
Talking Funny,
ouais.
Avec Chris Rock, Seinfeld, Ricky Gervais.
Ricky Gervais.
Et Louis C.K. C'est toujours intéressant, moi, je trouve, d'entendre des gens parler de leur humour, parce que c'est rare. On interviewe souvent des acteurs, des chanteurs, mais comme je parle ici, c'est vraiment rare que tu aies des gens qui essaient de parler de manière sérieuse,
ouais,
de la douleur dans le cul que c'est d'essayer de faire rire, en fait. Parce que c'est pas...
Mais ils devaient pas en faire un deuxième, Talking Funny?
Je sais pas, c'est Gervais qui produisait. D'ailleurs, ça se voyait parce que c'est celui qui avait trop l'air de s'amuser.
Bah ouais, attends, il est devenu fan avec... Enfin, pote avec des gens dont il était fan, donc il est un peu comme un gamin, non?
J'imagine ça doit être soit ça, soit il disait « Ouh, il faut absolument que ce soit bien parce que j'ai mis... » Ça n'a pas dû lui coûter gratuit, faire venir tous ces gens-là.
Non, si.
Tu penses vraiment? Non, c'est sûr qu'il a payé.
Bah, enfin, Seinfeld, il est un peu... Il a plus besoin d'argent, si.
Seinfeld, il a peut-être plus besoin d'argent. Ça veut pas dire qu'il ne demande pas d'argent. J'avais entendu une rumeur, je sais pas si c'est vrai. Que si tu veux le faire venir, maintenant, tu dis, ah, tiens, on ferait bien faire un show Seinfeld au Palais 12, à Bruxelles, 12 000 personnes au stade, c'est 1 million, ça coûte.
Putain.
Donc, 1 million, ça veut dire qu'il faut que tu vendes 10 000 billets à 100 boules le billet juste pour arriver. T'arrives même pas break-even parce que t'as toutes les taxes, etc. Mais il faut que tu sois sûr de remplir du 15 000 avant de commencer à penser à faire de l'argent, quoi.
Tu crois que les fans de pirates, ça les intéresse?
Payer. Ouais. Si t'es fan de Pirate, je pense pas que tu sois fan de Seinfeld.
Je sais pas, mais je m'imagine déjà Seinfeld en train de faire des blagues sur Formidable avec sa voix.
What's the deal?
What's the deal,
Formidable? With the Diable Rouge? Is it me or are they Formidable?
Tiens, en parlant de...
Ta Seinfeld pourrait doubler Mickey Mouse.
Non.
Hey, I'm Mickey!
Tu le fais super bien. Tu devrais, toi, doubler Mickey Mouse. Ouais.
Enfin, toi, tu devrais écrire pour SNL.
Ouais, ouais.
Ça peut pas être pire.
Bah, je prendrais pas mon temps ici à me faire insulter. Je suis venu sous la pluie, vraiment. Je me dis, bon, allez.
Écoute, c'est pas ma faute si t'es trop pauvre pour avoir une bagnole. Si t'arrêtais de faire des podcasts gratuits, peut-être que tu ferais de l'argent aussi.
Moi, j'ai entendu une rumeur comme quoi t'étais payé pour ce podcast.
Sérieux?
Ah, je sais pas.
Non, non, j'ai d'autres podcasts. J'ai déjà envisagé d'essayer d'être payé. Et moi, j'envisageais, mais il n'y a aucune personne qui envisageait de me donner de l'argent. Donc, c'est terminé là, le projet.
Bonsoir, revenons aux news, parce que là, on part dans tous les sens.
Ouais.
En parlant de Chuck Lorre et de son...
Qui est producteur de Big Bang Theory, voilà. Entre autres.
Il a encore sa série Two and a Half Men.
Oui, avec une lesbienne maintenant.
C'est vrai?
Oui, en fait, le personnage... Tout a un peu changé. T'as entendu ces histoires-là? En fait, à la base, t'avais Dude, dont on s'en fout qui c'est, le jeune et Charlie Sheen.
Mm-hmm.
Et Charlie Sheen a pété les plombs.
Le jeune aussi.
Et c'est ça, Ashton Kutcher l'a remplacé. Et le jeune a fait une vidéo. À un moment donné, il est devenu, genre, je sais pas, Born Again Christian.
Ouais, c'est un truc comme de ça. Secte ou je sais pas quoi.
Et il s'est mis à dire, joue dans... Il s'appelle Angus, je sais pas trop quoi. Il dit, je joue dans Two and a Half Men, je pense regarder la série, mais il faut pas regarder la série, c'est de la merde, c'est de la merde. Et donc, les gens de la série ont vu ça, ben on fait, bah écoute, on va te soulager d'un poids, mon bon ami.
Hey, il est plus dedans, alors.
Fired!
Ah, je savais pas.
Ah oui, non, c'était terminé. Et c'est lui, en fait, c'est pour ça, en fait, c'est limite un peu, c'est un peu douteux comme comédie. C'est maintenant, t'as Ashton Kutcher, c'est John Cryer, le deuxième, et le Half, qui était devenu genre 2 mètres et 100 kilos, donc faisait pas très Half, a été congédié. Et donc maintenant, le Half Men, c'est une lesbienne!
Oh mon dieu. Le truc le plus drôle qu'il y avait dans cette série, c'est le générique où ils ont fait une espèce de morphing avec le gosse quand il a commencé.
Ouais.
Puis en fait, ça devenait une espèce de monstre comme ça, tu vois, qui se transforme. Oh. Et tu sais qu'Ashton Kutcher est l'acteur le mieux payé à la téloche avec lui, cette série.
Lui, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais même quand il a commencé sur Twitter, il se battait avec CNN pour qui allait être le premier à 1 million. Quand il a fait sa série Punk, ça a cartonné, ça a été vendu... Il s'est fait Demi Moore, il a lâché Demi Moore, il y a eu des deals avec je sais pas qui, il a joué Steve Jobs au cinéma, il s'est fait proposer le plus gros contrat de télé pour... Mais c'est quoi c'est... Quand il était invité au MTV, quand il a gagné un prix au MTV Award, il a fait un discours qui était tout à fait correct, qui voulait en gros ben, bougez-vous puis bossez quoi, et qui était viral. Tu te dis, c'est vraiment l'air d'être une espèce de douchebag clown.
Mais je crois qu'il essaie de se démarquer de cette image-là, justement, avec toutes ses actions. C'est,
Mais tu dis, tout ce qui a touché That 70 Show, le gars, la liste de ses succès, elle commence à être assez impressionnante.
Ouais, derrière. Mais il n'est pas encore vraiment connu.
En fait, t'as l'impression que c'est... Comment je faisais ça? La fille qui, dans ton album de finissant, genre de secondaire, si tu montes l'album, je disais, ah tiens, elle était mignonne, elle. Ouais. Mais qu'à l'époque, personne ne trouvait mignonne, tu vois. Il a beau faire ce qu'il veut, on dirait qu'il n'arrive pas à avoir de la street cred...
Ouais, non, c'est clair, mais...
Dude, Where's My Car, qui est un film débile, mais qui avait bien marché.
Je me demande si vraiment le grand, grand public le connaît.
Il est peut-être un peu... Du public américain, elle est super connue, mais c'est peut-être un peu
ouais,
un phénomène
américain,
la,
mais ici, toi, on va dire
à la Will Ferrell, tu vois. Will Ferrell, ici, il n'y a à peu près personne qui sait qui c'est, quoi.
Ouais, mais lui, il a essayé des drames, tu vois, des Butterfly Effect, des trucs comme ça.
Oui, ça, par contre, ça, c'était pas... Moi, j'aime beaucoup ce genre de sujet-là, mais c'était pas... Le gars, il sortait de chez lui.
Ils en ont fait deux, trois, je crois.
Ouais.
Sans lui, mais bon.
Il avait pas peur de se faire assommer et d'avoir une commotion cérébrale pour cause de Oscar qu'on lui jette à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il craignait pas la chute de trophée quand il a fait
non,
des films.
Non, et avec Jobs non plus. Mais bon, soit tout ça pour dire que Roseanne Barr a attaqué Chuck Lorre en justice et elle a commencé à tweeter, mais c'était la semaine passée, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Elle a commencé à faire une longue série de tweets où, à mon avis, elle était probablement sous. Elle a insulté Ashton Kutcher. Elle a traité Lorre de « a thief, a con, a classist asshole okay. ». Tout ça parce qu'en fait, ils ont piqué une de ses vannes. Et la vanne, c'est « I would imagine that you're wet in the place you're used to be dry and dry in the place you used to be wet ». En parlant d'une vieille.
Ok, ouais.
qui était une vanne apparemment de son spectacle.
Ouais.
Et tu vois, Laurie s'est excusée, et maintenant elle s'excuse aussi. Enfin, ouais. Mais tu vois, une espèce de rant comme ça.
Mais c'est sûr que quand t'es plus relevant aussi, des fois tu profites de chaque occasion. T'sais, on sait pas. S'il y a de quoi, Roseanne Barr, ben, elle a essayé de revenir, non, dernièrement. Elle a eu un truc.
Elle a eu une espèce de télé-réalité parce qu'elle a une ferme de noix de macadamia qui s'appelait. Ouais. La télé-réalité s'appelait Roseanne's Nuts. Ça a été annulé très vite. Puis il y a eu le roast.
Ouais.
Et puis là, ben, j'en ai parlé la semaine dernière, je pense. Elle essaye de produire un 1090, donc, comme Kevin James. Ouais. Donc voilà quoi. Elle essaye.
Mais en fait, c'est. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais si c'est voulu, c'est bien joué. La fille, on parle pas près d'elle. Elle a une occasion de se faire, de se montrer en servant, en surfant sur le succès de quelqu'un d'autre. Elle dit, j'insulte, il s'excuse, je m'excuse.
Ça a duré 3 jours, c'est ça le truc, c'est que ça a duré 3 jours de tweets, de tweets, de tweets. Tweet, mais.
Maintenant, il a dit, tu sais quoi, je vais essayer juste d'avoir la paix.
Ouais, non, je pense que ouais, parce que comment tu veux te débarrasser d'un machin pareil.
Et il faut pas oublier une chose, si c'est un gag, pas mille, mais un gag. Man, ça peut arriver.
C'est ça, quoi.
Ça fait combien d'années, Two and a Half Men? 6, 7?
Plus, hein. Ils ont dépassé les 10 ans.
Sérieux?
Bah oui.
Non.
Je pense.
Non, Charlie Sheen en a fait combien? 5, 6?
Non, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, tu sais.
Sérieux?
Ouais.
Putain. Anyways, ouais, soit. Que ce soit entre 7 et 10, on s'en fout. On le s'en point étant, t'as 140, 150, 200 épisodes, alors qu'il y a plus qu'un gag par minute, tu dis ça.
S'il y en a, ouais, c'est ça quoi. Mais bon.
Si tu dis, putain, ça fait 5-6 fois qu'il me rip.
Elle se raccroche à ce qu'elle peut.
Tout à fait. Mais elle a toute qu'une carrière, mine de rien. Et moi, j'oublierai jamais quand elle a chanté l'hymne national. Elle s'est pas chantée.
Oh putain, oui.
Et il avait demandé pour chanter l'hymne national. Puis elle décide d'y aller à fond, genre oh, c'est canyons. Et elle gueule. Et elle se fait huer et elle continue. Elle en a rien à foutre. Il fallait avoir une sacrée paire de coronets pour reprendre ce que tu disais.
Ouais, c'est clair.
Pour faire ce qu'elle fait, elle était dans des comedy clubs aussi à l'époque où c'était juste des mecs qui étaient à peu près dans des comedy clubs. Il y avait 2-3 nanas qui y allaient, puis elle y allait comme une fonceuse. Quoi.
Dans le roast, il y a cette partie où ils l'insultent, mais ils sont un peu aussi redevables, tu vois, parce que c'est quand même une gonzesse qui a un peu montré la voie pour des Sarah Silverman et des machins comme ça.
Ah oui,
et le roast était pas mal. C'était celui de l'année dernière, je pense. Bref, enchaînons. Je disais qu'NBC ça va pas très fort et ça risque pas d'aller très fort. Ils sont en train de développer une adaptation télé du film The Money Pit. En français, ça s'appelle Une baraque à tout casser. C'est un film des années 80 avec Tom Hanks, tout jeune Tom Hanks. T'as jamais vu ce film là? Mmh. Où en fait, c'est un couple, un jeune couple qui achète
une baraque qui en gros ouais. est cassée de partout, voilà. Et ils ont que des emmerdes.
Voilà. Oh. La série télé maintenant.
Ah oui, parce que quand tu regardes le film, tu te dis « Ah, oh, si seulement je pouvais avoir 20 heures de
si
plus
ça. » Si ça pouvait continuer.
Combien de gags de planches qui tombent, de clous.
Mais en fait, je suis en train de regarder ma liste et tous les pires projets, c'est eux. Donc, il y a ce machin-là. Ils ont un projet avec Meg Ryan. Meg Ryan.
Tant qu'à sortir Tom Hanks, aussi bien sortir Meg Ryan.
Ça, c'est pas con. Ils pourront peut-être faire un espèce d'épisode, un crossover avec un caméo de Tom Hanks.
Meg Ryan, un peu, à l'époque, elle cartonnait sur les comédies romantiques. Sleepless in Seattle, c'est elle. When Harry Met Sally, c'est
ouais,
elle
ouais.
aussi.
Et puis elle est partie en couille avec des opérations.
Elle a eu sa face qui est maintenant genre 3 cm au-dessus de son visage. Ça aide pas, mais à l'époque, ça allait.
Et voilà, en fait, c'est une série où elle joue une mère célibataire qui retourne au boulot. Et évidemment, la vie au boulot, c'est pas toujours facile. Voilà. On va voir si on va savoir comprendre ce qu'elle dit et que c'est une espèce de steak qui lui sert de lèvres. Ah, attends, vas-y, dis-moi.
C'est le genre de fille. C'est un peu vulgaire, mais quand tu checkes la façon dont ses lèvres sont, il peut pas faire plus que 38 ou. En gros, elle peut pas te sucer au soleil parce que t'as peur que ses lèvres se collent à ta bite après. Tu sais, si t'as besoin d'une spatule pour la décoller quand t'as fini, c'est pas sexy. Là. Melanie Griffith, ça aussi, la meuf d'Antonio Banderas.
Ouais.
Patrick, un jour, il a dit « Ok, c'est tout fait, encore une opération, yet a kit. »
Donc, Mickey Mouse et Banderas. Je veux dire, ça déborde de talent et de mauvaise foi.
Je vais faire un mix des deux. Hé, hey, Melanie Griffith, c'est tout fait, une autre opération, yet a kit. Ben, c'est aucun des deux, finalement.
Quel génie!
Comme ça, on sait que deux négatifs, ça fait pas toujours un positif.
Bon, j'ai encore deux news NBC, autant y aller, non?
Ouais.
Il y avait une série sur BBC qui s'appelait Coucou avec Andy Samberg, où il jouait une espèce de DP comme ça, américain, qui sortait avec une anglaise. Et la famille ne l'aimait pas trop parce qu'il était un peu vulgaire, un peu dégueulasse. Il y avait 6 épisodes, c'était pas trop mal. NBC va racheter, évidemment. Donc, va savoir si Andy Samberg va reprendre le même rôle.
Ou est-ce que ça va être l'inverse?
Avec une vieille anglaise dégueulasse.
Et puis, un espagnol qui lui dit « Si tu enlèves encore une fois ton dentier pendant que t'es basse, il y a des guides. »
Non, mais je vois pas pourquoi il rachète des séries anglaises et que ça marche jamais. The Office, c'est peut-être le seul exemple.
Mais d'après moi, c'est juste qu'ils savent. Il y a un truc aussi, c'est que tu peux te planter 9 fois. Si le 10e, c'est un vrai succès, ça compense pour tout le reste. Je veux dire, quand ils ont vendu les épisodes de Seinfeld en syndication, d'après moi, ils ont eu de la marge pour s'acheter des hamburgers double cheese.
Et ce qu'ils sont en train de se dire, c'est qu'ils ont, quoi qu'on en pense, un vivier de talent au SNL et qu'ils ont laissé partir tous ces gens-là. Il y avait John Mulaney qui était auteur au SNL qui avait une série. Ils ont essayé de la vendre à NBC. NBC a dit non, ça a été racheté par Fox. Andy Samberg est sur Fox. C'est des trucs qu'ils n'auraient jamais dû laisser partir, tu vois.
Ouais, mais... En même temps, c'est peut-être pas un hasard. Fox a pas la même démographie, vise pas la même démographie non plus que NBC. Tu veux dire, NBC doit reviser n'importe quelle démographie.
En tout cas, ça marche, ouais, voilà.
Mais c'est ça qui est un peu... Eux, ils ont ça. CBS, qui sont nommés The Old People's Network, c'est aussi difficile. Puis ABC, qui doit être familial. NBC, qui est supposé être historiquement le plus fort et avoir les trucs les plus mainstream. Je pense que t'as aussi des gens qui essaient de gérer ça. Mais de rien, dans 30 Rock, c'était marrant quand il disait que NBC, c'était une filière de General Electric et puis que c'était un gars qui avait fait des micro-ondes qui gérait la série. Moi, ça m'a fait fort marrer qu'NBC le laisse sur son antenne parce que c'était...
Ils ont laissé passer plein de trucs. Hein. C'est un peu comme quand les Simpsons critiquent la Fox.
Fond.
Ça laisse...
Demi-parenthèse, Colin O'Brien, selon un auditeur, c'est @GeorgeD sur Twitter qui m'a envoyé un message en disant... Check dans tes trucs, mais Patrick Conan a écrit l'épisode du monorail. Donc, comme j'ai pas vérifié, je veux pas qu'on en fasse des tonnes, mais je glisse l'info au passage.
Ouais, mais je pense, enfin, ça m'étonnerait aussi. On checkera, il a pas besoin de ça, quoi.
Et dernière news NBC.
Ouais, celle-là, ça a l'air pas mal. C'est un programme qui s'appelle Welcome to Sweden. C'est un programme créé par Amy Poehler et son frère, okay, Greg Poehler, qui est apparemment acteur. En fait, ça a été vendu à la chaîne TV4 là, en Suède, parce qu'apparemment, ils ont des origines suédoises. Et c'est plus ou moins la vraie histoire du frère d'Amy Poehler, qui joue son propre rôle dans la série, où il est tombé amoureux d'une Suédoise et il est parti habiter là-bas.
Okay.
NBC va racheter le programme et le diffuser là tel quel, quoi. C'est pas une adaptation.
Ok.
Voilà. T'as rien à dire là-dessus.
Bye.
Mais ça me fait penser, tu connais cette série, c'est sur Showtime, ça s'appelle Episode, avec Matt LeBlanc.
Oui, c'est ça.
Et c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, là, c'est le sujet, c'est deux Anglais qui ont une série qui cartonne en Angleterre, qui est rachetée. Et on transforme tous leurs projets et on leur fout Matt LeBlanc dedans. Et ils disent, putain, Matt LeBlanc, c'est Joey, c'est un nul, tu vois. Ah, et ouais. Matt LeBlanc joue un vrai faux Matt LeBlanc. Franchement, ça déchire. Et la nouvelle saison commence en janvier, je crois. Saison 3.
Dans la catégorie des gens qui jouent leur propre rôle en soutien de leur propre gueule, de un peu has-been, il y a une série qui s'appelle... quelque chose de bitch in apartment 23. Il y a dedans... Le mec qui jouait Dawson, qui s'appelle...
James Van Der Beek,
qui joue le pote d'une des nanas, et qui, genre, qui se la pète à mort en tant que James Van Der Beek, et des fois, il arrive dans une pièce, et quand il est dans la pièce, il entend « I don't wanna wait,
ça a été annulé, hein, ça. Ouais, ça a été annulé.
C'était pas spécifiquement réussi, mais en fait, moi, je peux dire, c'est... Regardez cette série-là, c'était comme manger un gâteau, mais pas un gâteau qui sort du four, manger l'ensemble des ingrédients qui forment un gâteau. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est dégueulasse, mais il y a quand même des bons trucs. Ouais. Et je trouve qu'il y avait des très très bons gags, mais ça avait pas la recette n'avait pas la fin. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 saisons? Ou
Je sais pas, je suis tenté de dire une, mais...
Tu es tenté?
Je suis tenté, oui. Mais non, mais c'était pas mauvais. En fait, l'actrice principale elle est vraiment géniale, Kristen Ritter. On l'a vue un peu partout, elle était tout le temps second rôle. Elle avait un rôle dans Breaking Bad, elle était dans Veronica Mars. Et c'était un peu cool qu'elle soit sur le devant de la scène. Oui. Mais voilà.
Maintenant, elle est sur le derrière de la scène.
Pas mal.
Merci. C'était formidable.
C'était formidable comme...
Cet épisode, honnêtement...
T'imagines si ça rentre dans le vocabulaire des gens?
Ouais, cet épisode est formidable.
Voilà, comme ça on a notre titre. Ouais. Encore un autre truc, tant que j'y suis. C'est tous des projets, en fait, là.
OK.
C'est une série pour HBO qui s'appelle People in New Jersey. C'est créé par Lorne Michaels. Créateur du SNL.
Ah, mais ça ne peut qu'être bon.
Écoute, c'est avec Sarah Silverman et Topher Grace. Vas-y, critique Silverman maintenant.
Silverman, ça va être difficile. Outre le fait qu'elle fait le même gag depuis 15 ans, mais moi, je le trouve très drôle toujours son gag.
Mais on verra, parce qu'elle a son nouveau special qui commence le mois prochain, je crois. Ouais. Ça sera diffusé le mois prochain.
D'ailleurs, parlant de special qui sont le mois prochain, finalement, le DVD de Jérémy Ferrari. Honnêtement, ce DVD sort beaucoup trop loin.
C'est vrai, parce que c'est le 6, c'est
ça? Il sort le 6 novembre, ouais, finalement, voilà. Tu m'as dit. Donc, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas pu faire le débriefing du DVD de Jérémy Ferrari.
Mais on a hâte.
Revenir à... Donc, Sarah Silverman et Topher Grace, qui était en fait le personnage principal de That 70 Show.
Yes. Et c'est une série où ils jouent deux frères, enfin, frères et sœurs un peu perdus, enfin, une trentenaire perdue. Et ce sera réalisé...
Sarah Silverman joue une trentenaire?
Ouais, bah, ça passe.
Oui, ça passe, mais elle n'a pas envie de vieillir.
Non. Mais elle a cette voix de gamine, son physique passe encore, non?
Mais en fait, elle a pas. Quand tu regardes depuis. C'est sûr, je suis convaincu que cette fille-là a subi l'une ou l'autre injection ou opération. Parce qu'en 12 ans, tu regardes des trucs de 12-15 ans, elle a juste les sourcils mieux épilés. Mais c'est la seule différence. Et puis le cheveu plus brillant. Mais
je sais pas, je pense qu'elle a quand même des petites rides comme ça.
Ouais.
Super macho ce qu'on est en train de dire, toi.
Ouais, ça a des rires, dans ce cas-là, je la trouve plus drôle, moi.
Non, mais voilà, et le pilote sera réalisé par Paul Feig, le réalisateur de Bridesmaid, créateur de Freaks and Geeks, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
De toute façon, Bridesmaid, c'est... Un film ne peut pas être mauvais quand un film inclut quelqu'un qui chie en robe de mariée dans un lavabo. Ça, moi, dans sûr. La catégorie des films où il y a quelqu'un qui chie en robe de mariée dans un lavabo, Bridesmaid, c'est dans mon top 3.
T'as bien aimé?
Bridesmaid?
Ouais.
Moi j'ai trouvé inégal, mais il y a des moments où au cinéma et j'avais ri fort longtemps. Et c'est, il y a plein de trucs que je trouve marrants, mais genre partir dans une espèce de cascade de rire. Et j'oublie son nom, c'est merde, celle qui a joué dans un film avec Sandra Bullock dernièrement.
Melissa McCarthy.
Je la trouve drôle, mais je la trouve très 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 drôle.
Elle est folle, elle est vraiment folle. Et j'allais dire un truc, mais je vais me retenir.
Elle est très...
Elle est folle, voilà.
Committed à ses rôles aussi. Elle va au bout des trucs... Genre dans le film, je pense que j'en ai parlé, dans le film avec Sandra Bullock, elle doit m'emmener à sommer quelqu'un avec un bottin téléphonique. Et elle dit, je vais y aller un peu doucement. Et le gars avait dit, non, pour que ça soit marrant, balance-le-moi vraiment. Elle a dit, OK! Elle lui a balancé. Le gars, il dit, quand j'ai reçu le bottin téléphonique, j'étais sûr que mon nez avait cassé, quoi. Et on a pu plus refaire la scène parce que j'avais trop mal. Et d'ailleurs, si vous voyez le film... c'est une enquête dans le coin de Boston. La scène coupe super vite. Une fois qu'il reçoit le bottin sur la gueule, t'as genre un genre de reaction shot en une demi-seconde et ça coupe parce qu'en fait, il y avait hyper mal.
Je savais pas, j'ai pas fait gaffe.
Et l'acteur a dit. Et quand elle a vu ça, donc ça a crié coupé, elle a couru pour venir me dire oh mon Dieu, est-ce que ça va? Et elle est tombée sur le bottin. Et là, j'ai vu toute l'équipe du tournage foncer vers Melissa McCarthy. Genre, moi, j'ai le nez cassé, mais. Elle a peut-être froissé quelque chose en tombant. Donc, il dit, il n'y a rien de tel pour te rappeler ton rôle et ta hiérarchie dans un film.
C'est la star du film, t'imagines?
C'est ça, que toi, avoir le nez pété et genre avoir personne qui en a quoi que ce soit à foutre.
Mais c'était marrant, mais c'était pas exceptionnel. Je m'attendais à mieux sur The Heat.
Ouais, j'étais déçu, honnêtement.
C'était un bon film policier à la Arme Fatale années 80.
Moi, c'est ça, j'ai l'impression que ça
ne
Moi,
j'ai Bullock... rien contre cette fille. Je comprends pas ce que tout le monde a contre elle.
De toute évidence, c'est quelqu'un d'un peu sympa. Une année, elle avait gagné un Oscar puis un Razzie, puis elle avait été chercher les deux. Ce qui, moi, je trouvais déjà, juste ça mérite le respect éternel. Mais t'as l'impression que dans chaque film, l'air de pas y toucher a fait la fille qui veut quand même qu'on voit qu'elle est jolie. Tu vois. Je vais faire la fille qui est pas jolie, mais en fait, tout est toujours impeccable.
Ben, elle est
tout
jolie.
Mais je sais. Mais tu vois, c'est un peu comme. Le syndrome animatrice télé pré-retour d'âge comme ça qui veut continuer de montrer qu'elle est bien quand même. Tu sais, celle qui promet qui fait chier genre en demandant une retouche maquillage et qui retarde tout le monde.
Ouais, ouais peut-être, mais...
C'est complètement basé sur rien du tout ce que je dis. Là. Même pas sur une info tabloïde, mais c'est cette espèce de... T'as l'impression que pendant que tu lui parles, elle se concentre sur quoi faire avec sa face. Toi, genre la personne qui clairement, tu vois, qui te regarde, mais qui te regarde pas, parce que dans sa tête, elle fait « Ok, là, ici, j'ai ma ride du lion, je vais essayer de me détendre. »
C'est encore le truc le plus sympa que tu peux lui reprocher, parce qu'on lui reproche des trucs, des fois, tu dis « Mais... »
Sérieux?
Ben oui, laissez-la tranquille. Enfin, quand elle a eu son Oscar, c'était fin du monde. Attention, Sandra Bullock a un Oscar.
C'est pas un peu la Ben Affleck des actrices, Sandra Bullock?
Un peu, ouais.
Peu importe ce qu'il va faire Ben Affleck, il va toujours se faire dégommer. T'as l'impression que tu dis « Putain, il a fait... »
Est-ce qu'il le cherche quand même un peu?
Je sais pas, il a fait des tout bons films. Le gars a gagné un Oscar.
Oh, ouais.
Toi, t'étais contre le... Fini parenthèse, parce qu'on parle de comédie en théorie, mais bon, pour certaines personnes, que Ben Affleck soit le prochain Batman, c'est de la comédie.
Oui.
Toi, t'es contre le fait qu'il soit le prochain Batman ou...
Ah ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu reproches à Ben Affleck? Et là, ça a l'air d'être une pré-fight, comme je te laisse sortir des trucs pour te casser, mais moi, je sais qu'il a fait un film de super-héros où il s'était tapé la honte, mais non, je l'ai trouvé bon comme réalisateur. J'ai aimé The Town, j'ai aimé Argo, je l'ai aimé lui dans Argo, et moi j'ai aimé Good Will Hunting, et je sais pas, j'aime bien sa face. Et puis il a tapé les fesses de J-Lo dans un clip de J-Lo, donc juste pour ça, genre, sa main mérite mon respect.
Il s'est tapé plus que ça, hein, avec J-Lo.
Oui, mais dans le clip, c'est juste une main sur fesses.
Après, on n'a pas vu le même clip. Moi, c'est la version
X. La sextape.
Non, je sais pas, mais moi, je suis méga fan des comics. Déjà, le dernier Batman, j'ai pas aimé. Donc...
Oui, parce que pour toi, c'était un bon film, mais c'était pas un Batman, c'est ça?
Le dernier Batman?
Ouais.
Ah, c'était même pas un bon film.
Ah, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré, moi. Je l'ai vu deux fois.
J'ai jamais vu un film aussi con de toute ma vie. Si, le nouveau Superman. Mais bon, soit. Le Ben Affleck, oui, le mec remonte. Il gagne en crédibilité en devenant réalisateur avec des films qui sont vraiment, vraiment bons. Qu'est-ce que tu tires une balle dans le pied en allant faire Batman? Ça tombe, ce sera bien, j'en sais rien, mais moi, personnellement, j'ai pas envie de voir Batman.
Kevin Smith avait sorti un bon truc quand il s'exprimait, parce que bon, ils sont...
Mais Kevin Smith, forcément, il a écrit des très bons Batman en comics. Il va forcément le défendre, vu que c'est son pote, tu vois.
D'office, ils ont travaillé ensemble à l'époque.
Jersey Girl.
Dogma aussi, je crois.
Dogma, ouais, ouais, ils en ont fait plusieurs, mais je veux dire.
Ouais, pour parler d'un échec, mais il avait dit. Ce que tout le monde oublie de calculer, c'est Ben Affleck est père de famille. Et tu veux pouvoir dire à tes enfants,
tu es Batman,
ouais, ben c'est bon. Papa. Et si tu étais fan de Batman et que tu as l'occasion de le jouer, en fait, il y a plus... Ben Affleck a de l'argent, fait ce qu'il veut pour notre évidence à Hollywood, a été une superstar qui avait dit en interview, ouais, non, j'en ai marre, je vais repartir du début avec des petits rôles pour reconstruire mon image. Et il a réussi, donc il a percé deux fois à Hollywood.
Ouais, puis troisième fois contre Réal. Moi, j'ai rien contre lui.
Et juste... donc, le gars, il doit en avoir, je veux dire, rien à foutre de rien. Et on lui dit, veux-tu faire Batman? Ça doit l'amuser. Et il doit le savoir que c'est un défi que tout le monde l'attend au tournant. À un moment donné, ça doit être gay aussi de faire, tu sais quoi, je vais faire un truc casse-gueule. Tu sais, pour moi, il choisit d'être Batman comme les gens choisissent de traverser le Grand Canyon sur un fil de fer. Tu vois.
Ouais, mais on va revenir à des Batman à la Val Kilmer et George Clooney. J'ai rien contre George Clooney non plus, mais tu vois.
Ou on peut revenir à un Batman à la Michael Keaton, qui a été un excellent... Alors que oui. Michael Keaton, c'était un peu... Allez, comment... C'était un petit comique, quoi. Il faisait des films, c'est quoi, c'est Duplicity, ou genre...
Multiplicity.
Multiplicity, où il y a 3-4 clones de lui-même.
J'adore ce film.
Moi aussi, je l'ai en DVD, d'ailleurs. Ceux qui l'ont pas vu, ça vaut vraiment la peine de perdre... Mais c'est juste le dimanche, ou le samedi, si tu t'es bourré la gueule la veille. Mais sinon, c'est le dimanche. Et à un moment donné, t'as son clone. C'est pas là-dedans où t'as son clone qui décide de se cloner lui-même.
Ouais, ouais, ouais. Après, ça part vraiment.
Comme ça, il devient mongol. Et il y a eu un épisode des Simpsons où le hamac magique, où Homer, dans le hamac, il crée des clones. Et
une fois, il devient le mec de Family Guy à un moment donné.
Exactement. C'est où il tourne. Et c'est vraiment donc, le même principe. Et donc, il peut. Pour moi, il y a le danger de tomber du côté George Clooney de Batman. Mais Michael Keaton, le fameux Batman où c'était Jack Nicholson qui jouait Joker. Et t'avais qui? C'était pas...
Michelle Pfeiffer qui jouait Catwoman, comme ça dans celui d'après.
Dans celui d'après, celui c'était pas... Qui y avait? Il y avait une chouette nana qui était dedans.
Kim Basinger.
Kim Basinger, c'est ça. C'était un bon film, celui-là.
Ouais, ouais.
Et pourtant, Michael Keaton, si aujourd'hui on disait un gars...
Mais c'est pas niveau de l'acteur, c'est... Mais enfin, c'est un tout pour moi, on va pas faire 5 heures là-dessus, c'est juste que je suis fan des comics, ça n'a plus rien à voir avec Batman. Enfin...
C'est qui écrit le prochain, tu sais?
Je sais pas, mais je crois que c'est Superman versus Batman, donc c'est, Zack Snyder, et ouais, c'est la même bande, le réalisateur du dernier Superman, produit par Christopher Nolan.
De toute façon, le meilleur gag de 2013, moi, vous m'enlèverez pas de l'idée que c'est Superman qui frappe le méchant avec un...
Ça, pour le coup, c'était le plus proche du avec le satellite?
Oui.
C'est le plus proche du comics, parce que Superman, c'est un mec qui met des tartes à tout le monde, et voilà.
Avec un satellite, man.
Ah ben...
Ça, c'était plus 10. Ok, next, on revient à la comédie.
J'aimerais bien parler de Kevin Hart,
ouais.
Qui est en train de monter en puissance.
Il est drôle, lui, des fois. Tu te trouves drôle, toi? J'ai vu présenter des trucs que je capte pas comment...
Moi, ouais, mais en fait...
C'est un peu le Dane Cook des plaques, non?
Je sais pas, moi je le trouve assez drôle, c'est pas non plus l'éclate, mais il commence à vraiment monter. Il a vendu un pilote à ABC basé sur sa vie. C'est un peu comme Chris Rock avait fait avec Everybody Hate Chris.
C'est-à-dire que tu voyais pas Chris Rock, c'est ça? C'était l'époque où il était jeune. Donc ouais. C'était un jeune
et ici, acteur. Il produirait, il jouerait pas dedans. Et il y a un film qui est disponible sur Internet de manière un peu illégale, qui s'appelle Let Me Explain. Et en fait, c'est son spectacle au Madison Square Garden, 20 000 personnes.
Ok, j'ai compris, 1000 personnes.
Non, 20 000. Et c'est assez impressionnant. Il y a juste une petite intro qui est mal foutue où il joue la comédie et c'est un peu nul. Mais c'est vraiment impressionnant quand tu dis putain, il faut avoir.
Mais gérer le Madison Square Garden, c'est pas évident. On dirait on vient de parler de Dane Cook, mais lui, il arrive quand même.
Ouais,
il
y a un
style qui lui permet de gérer les grandes foules. Quand tu vois Steve Martin l'avait fait, il l'avait très très bien fait aussi. Et est-ce que c'est le concert movie de ce qui est passé au cinéma dernièrement?
Oui, c'est celui-là. Et il arrive en DVD, et du coup, ben, pour nous, c'est un peu récupérable, parce que ça sortira quand même pas ici.
C'est ça. Et pendant des semaines, il était dans le top 10 des films, entre guillemets, les plus regardés au box-office, alors que
ça
c'était...
Ça a cartonné, c'est un truc de dingue. C'est ça que je dis, il est en train de monter vraiment en puissance. Et j'ai regardé, c'était pas le meilleur stand-up que j'ai vu de ma vie, mais c'était sympa.
De toute façon, quelqu'un qui arrive à contrôler une foule au Madison Square Garden...
Ouais, non, c'est ça. C'est plus impressionnant que drôle, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais déjà ça, tu peux pas dire que... Tu peux ne pas trouver ça drôle, mais le gars a un certain talent.
À fond.
Mais déjà, avoir les couilles de faire le Madison Square Garden, il faut quelque chose de spécial.
À fond. Mais moi, il me dérange pas, en fait. J'aime bien. C'est vrai que. Mais en fait, tu parles sûrement de MTV Awards, où il était là il y a.
Ouais, il fait deux ans qu'il présente, je crois. Parce que j'ai vu.
Non, il a présenté l'année dernière. Cette année-ci, il a pas présenté, mais il est venu, genre, annoncer un truc.
Ok, mais j'ai entendu des extraits qu'il avait fait les deux années.
C'est vrai que c'est pas très drôle.
Mais de toute façon, on peut pas dans tout le temps. Si t'es humoriste, puis ton show est bon, c'est déjà ça de gagner.
Mais bon, on verra le pilote, là, si c'est acheté par ABC. Quoi d'autre? Il y a Daily Show qui change un peu. Rory Albanese, qui était là depuis. Il est arrivé genre un mois après John Stewart. Il était producteur exécutif et il se barre.
Ok.
Parce qu'en fait, il a créé une série que CBS lui a achetée. Et c'est. Ça se passe dans un drugstore et c'est une histoire d'une famille qui tient ce drugstore. Blablabla. Okay. Un truc multicam un peu classique. Mais du coup, comme il se barre, il y en a trois nouveaux qui étaient auteurs. Adam Lowitz, Jennifer Flantz et Steve Bodo qui deviennent tous co-exécutifs producteurs.
Comme ça reste dans les équipes qui connaissent bien.
Trois d'un coup, c'est une fameuse promotion.
Mais c'est une bonne nouvelle en général quand c'est des gens de l'interne qui restent et qui vraiment, ça veut dire que
ils
c'est
ont une équipe méga soudée.
La structure est saine, c'est ça, exactement à l'intérieur.
Et du coup, je me demande comment... J'ai hâte de voir le film de Jon Stewart parce qu'il était parti pendant l'été 3 mois pour tourner un film, un truc genre sérieux, Moyen-Orient, enfin... Je me demande bien ce que ça va donner, quoi.
Il y a des gens comme ça où tu as confiance en tous leurs projets, tu vois. Tu dis, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est... Moi, j'ai ça avec Zach Galifianakis. Peu importe ce qu'il fait, j'ai envie de voir ce que ça va donner, quoi. Ah oui. Moi, Due Date avec Robert Downey Jr., j'ai aimé le film.
C'est vrai?
J'ai aimé... Oh oui. Mais il y a des gens comme ça, c'est pas rationnel. Mais le film peut-être avec Zach Galifianakis que j'ai préféré... C'est It's Kind of a Funny Story.
Dans l'asile
avec Emma Roberts, là, donc la nièce de Julia Roberts. Et t'as aussi un mec qui a l'air d'un jeune Joseph Gordon-Levitt qui et je sais pas, je l'ai trouvé tout chouette comme ça comme film. Là tu vois genre un vrai feel good movie pour moi, j'avais adoré. Mais
moi j'ai de plus en plus de mal avec lui.
Ouais.
J'aime bien quand il est dans son personnage de Between Two Ferns.
Quand il insulte Justin Bieber, ouais. Il le tape avec une ceinture.
Le reste, je dois remonter assez loin pour me souvenir d'un film avec lui qui m'a fait vraiment rire.
Oh, The Hangover 3.
Ouais, putain, attends,
je l'ai pas regardé.
C'est une catastrophe, il y a même pas d'histoire.
Un gars qui.
Il y a même pas de Hangover en fait, c'est ça que je voulais dire.
Sérieux?
Ouais.
Moi, c'était un gars sur Twitter qui nous avait dit ça. Cédric Rosenbaum. Un gars assez marrant qui envoie pas mal de bons contenus aussi en général, qui est journaliste en Belgique, qui avait dit « Si vous aimez la série The Hangover, faites-vous une faveur et n'allez pas voir Hangover 3.
Ouais. »
Et je m'étais dit « Ça, c'est un gars qui a les mêmes goûts que moi. J'ai pas envie de gâcher. » Déjà, le deuxième, tu disais.
Le deuxième, c'est le premier.
Ouais, mais pourquoi pas? Tu vois, c'est pas... Ça a pas
mais on avait plus fait ça depuis Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Ou Maman, j'ai raté l'avion 2, c'est le même à New York. Mais là... non, mais je suis fan aussi. Hein.
Non, mais c'est parce que je suis en train de regarder parce que j'ai le coffret et en achetant le coffret de Maman,
il y a le 3 dedans.
avec un autre acteur. Et c'est dans Modern Family qui ont un super gag où dit nous, on a un petit péché mignon, c'est les séries. Et en général, nous, ce qu'on aime, les séries de films, c'est à partir du genre du 4 ou du 5, quand ils commencent à changer le cast original, c'est là que la magie opère en général.
Ah, mais ils ont fait mieux, hein. Home Alone, ils sont au 5. Hein. Dans le 5.
Ils ont continué!
Ah ouais, mais maintenant c'est diffusé à Noël sur ABC Family. Mais dans le 5, c'est la famille McAllister, donc c'est la famille du premier. Et c'est encore Kevin, mais c'est genre, il n'y a plus aucun acteur, à part Malcolm McDowell de Orange Mécanique.
Ouais.
On va voir ce qu'il fout là. Mais je voulais dire, dans le troisième, la sœur du mec qui, du gamin qui reste à la maison, c'est Scarlett Johansson.
All right.
Qui est super jeune, il doit avoir genre 10-12 ans.
Ah, parce que là, je retire mon « all right » de pervers.
Ouais, non, elle était très jeune. Ça n'en fait, ça ne change pas le fait que c'est un film de merde, mais voilà. Mais je veux dire, Hangover 2, c'est comme Home Alone 2. C'est la même histoire que le premier, mais eux, ils sont en Thaïlande.
Ouais. mais j'ai eu du plaisir à aller le voir au cinéma. Bon, le problème, c'est que j'ai moins ri. Le truc que j'ai trouvé le plus drôle, c'est les diapos qu'il y avait dans le générique. Donc, si vous allez le voir, vous n'avez pas encore vu, vous allez le voir pendant le générique, checker les diapos parce que c'est encore ce qui est le plus marrant.
Il y a ça aussi dans le 2?
Ouais.
Oh, je me souviens plus.
Avec des gags les plus vulgaires de l'histoire du cinéma, je crois. Je peux pas raconter parce que ça brûle le punch, mais...
Non, je vais essayer de checker ça.
Il y a des gens qui font des choses avec des organes que tu pensais pas qu'il y avait si t'allais voir ces gens-là dans des organes que tu pensais pas qu'ils étaient utilisés par quelqu'un qui est hétéro.
Hein?
Et il y a une photo de ça.
OK.
So, that's weird. Bon, à part la télé, peut-être un petit point sur le cinéma avant qu'on se quitte pour cette semaine.
Yes, je peux juste terminer un truc télé.
Go.
IFC a commandé une série à Funny or Die. Et rien que l'expliquer, ça me fait rire parce que je comprends rien. En fait, c'est une fausse adaptation d'un faux livre qui n'existe pas. Façon, les oiseaux se cachent pour mourir ou des machins pareils.
Ouais.
Le faux auteur est joué par Will Ferrell et il s'appelle dans le truc, parce que son nom est drôle, Eric John Rush. Donc, lui fait la voix. Et en fait, c'est une histoire d'un mec qui a plein de thunes. C'est Tim Robbins qui est un magnat du pétrole et qui doit léguer sa fortune à ses deux enfants, Kristen Wiig et... comment il s'appelle, Tobey Maguire. Mais il leur lègue seulement s'ils arrêtent de s'aimer parce que en fait, ils couchent ensemble. Et en fait, il y a la bande-annonce. Et
minute.
Quoi?
Ses deux enfants, il lègue sa fortune si les deux enfants arrêtent de coucher ensemble.
Ouais.
Ok.
Et c'est filmé, genre, en fait, c'est magnifique. Il y a la bande-annonce, c'est super beau. Et c'est rien à voir. Et les acteurs, il y a aussi Carey Mulligan, Jessica Alba, Michael Sheen, Ali Joel-Smith du Sixième Sens.
Sérieux?
Ouais, ouais. Et ça s'appelle The Spoils of Babylon. C'est une mini-série en 6 épisodes. Et c'est diffusé bientôt. Mais la bande-annonce, c'est incroyable.
Mais putain, juste le casque que tu viens de nommer est impressionnant. Quoi.
Mais déjà, rien que le pitch, moi, ça me fait hurler de rire.
À fond.
Enfin, donc voilà. Je mettrai la bande-annonce parce que franchement, ça vaut le détour.
À fond, ça, envie de voir ça.
Et tu veux que j'enchaîne vite ciné, justement,
ouais,
avec Will Ferrell.
En 2-3 minutes.
Pas de souci. Il a un nouveau film avec John C. Reilly. C'est leur troisième après La Légende de Ricky Bobby et Step Brother.
Tahalaga Nights.
Ça s'appellera Devil's Night. Et en fait, Devil's Night, c'est le jour avant Halloween.
OK.
Et il joue deux amis qui vont essayer de se défendre contre les gosses qui foutent la merde.
C'est pour cette année, ça?
Non, je pense pas. Ils vont seulement l'écrire.
Ok, ils se mettent ensemble seulement maintenant. Ouais. Okay, je pense
c'est,
que...
Non, c'est écrit par le duo qui a fait Yes Man avec Jim Carrey.
Ok.
Et c'est produit par Ferrell et McKay, donc Gary Sanchez.
Parfait.
Donc sûrement l'année prochaine ou un peu plus tard.
J'imagine autour de Halloween.
Ce serait pas con. Mais bon, voilà, ça marche tout le temps quand ils sont à deux. Donc,
à fond. Les deux films, je les ai trouvés très drôles.
Ouais, mais Step Brothers, moi, c'est encore plus drôle que Anchorman, à mon sens, ouais.
Ben écoute, ça nous arrive à tous de se tromper. Non, c'est vrai qu'il était drôle. Moi, je préfère Anchorman, mais bon, on s'en fout. C'est pas très intéressant. Et sinon
Seth Rogen et Evan Goldberg qui écrivent un autre film. Ils disent que c'est un Christmas Stoner Movie.
Ok.
Ce sera réalisé par Jonathan Levine qui avait fait 50-50.
Excellent film.
Ouais.
Moi, je m'attendais à rien en voyant ça. C'est un pote qui apprend que le cancer, c'est Joseph Gordon-Levitt d'ailleurs.
Qui a le cancer dans le film, oui.
Et Seth Rogen, qui est son pote, qui en gros est tout awkward et c'est pas comment.
Mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est un de leurs potes, je sais plus comment s'appelle ce type. Mais, qui a vraiment eu un cancer. C'est vraiment bien.
Et tu t'attends à une espèce de grosse farce grasse. Et honnêtement, c'est sujet. En tout cas, moi, c'est peut-être des fois le contexte dans lequel tu le vois. J'étais sur mon iPad dans le sous-sol chez mes parents au Québec. Je venais de revenir en vacances. Mais je m'attendais à rien. Un jour, tu me sonnes un après-midi un peu tranquille et je m'étais vraiment surpris à rentrer à fond.
Non, c'est méga émouvant, c'est vraiment, et c'est bien joué, c'est bien foutu, et même Seth Rogen est vraiment bon, même dans le drame.
Ça fait du bien de le voir aussi sortir du personnage deux secondes, quoi, et c'est assez crédible. Moi, j'avais vraiment fort aimé.
Bon, il a ce truc-là, et alors il a un autre projet qui s'appelle The Interview, et là, ils ont commencé le tournage, c'est avec James Franco, et attends, parce que le pitch est drôle, et rappelle un peu comment s'appelle ce film avec Ben Stiller, Zoolander. En fait, c'est deux présentateurs d'un talk show qui sont embrigadé dans une histoire pour assassiner le premier ministre de la Corée du Nord. Donc ça s'appelle The Interview et voilà.
Magnifique. Ben écoute, je pense que ça va faire le tour pour cette fois-ci, pour
ouais, il y a
cette
beaucoup
semaine.
De news.
Pas mal de trucs en télé, on va continuer de suivre ça. Sur le Tumblr, tu vas envoyer les liens si on veut. En gros, si t'as envie de voir ce qui s'est passé dans la dernière semaine en 5-10 minutes, le Tumblr, c'est vraiment à ajouter dans tes favoris. Ou quoi, fais ce que tu veux, je suis pas ta mère. C'est quoi déjà l'adresse du Tumblr?
cnwpodcast.tumblr.com.
Assez facile. Et toi, on peut te rejoindre sur Twitter à l'adresse?
Anthony Mirelli. Je me suis pas cassé la tête sur ce coup-là.
Anthony Mirelli, avec un R et deux L, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Magnifique. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de...
Non, je sais plus.
La semaine prochaine, ciao.
Ciao.